Vous écoutez RTL.
RTL, il est 18h.
RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos et à la une. Vous en rêviez, la première radio de France le fait. Duhamel, Zemmour, les deux éditorialistes les plus écoutés, les plus lus du moment, débattent dans un face-à-face qui promet dans RTL Soir. L'un signe une histoire personnelle de la 5e République, l'autre fait polémique avec le suicide français. Deux livres, deux visions de la France et deux grandes signatures de RTL qui pendant 45 minutes vont s'opposer sur les thèmes qui agitent la société française. L'immigration, la famille ou l'Europe, sans tabou, sans retenue, un événement, tout à l'heure, 19h15.
Le 18h, Isabelle Choquet.
RTL Soir.
Et en attendant, il est 18h. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les titres de l'actualité.
Sortie de route pour l'écotaxe. Le dispositif de péage pour poids lourds est suspendu, sinédié par Ségolène Royal. Les routiers renoncent à leur grève, mais les écologistes sont furieux et il va maintenant falloir régler le problème Écomouv.
Et à 18h20, la première réaction du secrétaire d'État des Transports, ex-secrétaire d'État aux Transports de Jean-Marc Ayrault et de Manuel Valls, qui s'est battu pour l'écotaxe, Frédéric Cuvillier.
L'aide-soignante espagnole malade d'Ebola est désormais en danger de mort. Son état s'est dégradé. Le médecin qui l'a prise en charge aux urgences décrit des mesures de sécurité très insuffisantes. À suivre également un couple jugé à Auxerre pour avoir refusé de faire vacciner sa petite fille, maltraitance ou principe de précaution. Le débat est lancé. Et puis la grande misère des enfants du 21e siècle face aux légumes. 4 sur 5 ne savent pas reconnaître un poireau. Promis. La Bourse de Paris, elle termine en baisse de 0,64% à 4141 points. Les courses à Saint-Cloud, il fallait jouer le 8, l'As, le 3, le 15 et le 17.
À la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, fumez-tu et ruine. Comme vous le révélez RTL ce matin, le gouvernement va augmenter de 30 centimes ses taxes sur les cigarettes. Mais les industriels du tabac sont-ils obligés pour autant d'augmenter le prix du paquet? Puis direction les coulisses de l'actualité. L'actualité, c'est la visite de François Hollande à Angoulême tout à l'heure sur le thème de l'autisme. Alors nous, on va vous raconter le quotidien d'une maman qui vit avec une petite fille autiste. Linda s'est endettée de 90 000 euros pour pouvoir envoyer Lilia à l'école, pour pouvoir être au plus près de ses besoins. Cette maman travaille la nuit dans une grande surface. À 18h30, avant donc son face-à-face avec Éric Zemmour, Alain Duhamel se demandera ce qu'il reste du socialisme. 18h35, une légende de l'athlétisme français, la gazelle est de retour, Marie-Josée Pérec. Elle a pris sa retraite il y a pile 10 ans. Il est loin le temps de l'athlète timide sous pression qui a pété les plombs au JO de Sydney. Aujourd'hui, Marie-Jo est la marraine de la Run and Bike solidaire, dont la première édition est dimanche à Paris. 18h50, Laurent Gérard et la météo. Louis Bodin, bonsoir.
Bonsoir Marc-Olivier.
Attention, nouvelle alerte aux intempéries près de la Méditerranée.
Et oui, de nouveau de fortes pluies attendues du côté de l'Hérault, l'Ardèche, le Gard ou encore la Drôme, et avec des sols saturés, mais on craint malheureusement de nouveau des inondations, d'où cette vigilance qui devrait être prolongée au moins jusqu'à samedi. Dans les autres régions, on aura également beaucoup de nuages et beaucoup de pluie, particulièrement des Pyrénées aux frontières de l'Est, plus d'éclaircies dans le nord et le nord-ouest après dissipation de quelques brouillards le matin, peu d'averses en revanche, puis les températures toujours relativement douces, 17 à 21 degrés au nord comme au sud et jusqu'à 28 près de la Méditerranée.
Merci Louis Baudin.
RTL Soir.
Et évidemment, le premier titre de l'actualité du jour. La France est plus que jamais championne du monde de littérature. Le prix Nobel a été attribué à Patrick Modiano, Isabelle.
Oui, c'est le 15e écrivain français qui reçoit cette prestigieuse récompense dans la lignée des Mauriac, Camus, Sartre et dernièrement, en 2008, Le Clésio. L'Académie Nobel a voulu récompenser son art de la mémoire. Elle salue un Marcel Proust de notre temps. À 69 ans, c'est donc la consécration ultime pour Modiano qui trouve cela bizarre, Bernard Lehu.
Ben oui, fidèle à lui-même, emprunté dans son mètre 90, Patrick Modiano semble vivre cet instant historique comme dans un de ses rêves surgit du passé qui hante ses livres. Et il le dit dans son élocution hésitante qui a fait sa légende. Il le disait il y a quelques minutes lors de la conférence de presse chez son éditeur Gallimard.
Ça me semble un peu irréel, parce que je me rappelle des souvenirs d'enfance, même Camus, de quand j'avais, oui, je devais avoir 12 ans, le prix Nobel, et ensuite ça, et puis d'autres. Donc ça me semble un peu irréel, en fait, d'être confronté avec des gens que j'ai admirés quand j'étais adolescent.
Patrick Modiano, qui, il faut le dire, n'était clairement pas favori pour ce Nobel. Et en même temps, son succès n'est pas une surprise vu la richesse de son œuvre, Bernard.
Mais oui, Modiano, on a l'impression qu'il crie toujours le même livre et pourtant on se laisse prendre à chaque fois par la déambulation qu'il nous propose dans les brèches du temps, là où on ne distingue plus le passé du présent, les souvenirs des rêves, où la réalité devient flottante et dans un Paris toujours énigmatique. Dans son dernier roman qui est sorti la semaine dernière, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, eh bien, il résume toute son œuvre d'une phrase, la voici, je ne puis donner la réalité des faits, je n'en puis présenter que l'ombre. L'ombre aujourd'hui est en pleine lumière, celle du Nobel.
Le monsieur livre de RTL, Bernard Lehu, merci Bernard. Les routiers ont donc eu la peau de l'écotaxe, Isabelle. Le dispositif est suspendu sine die.
Oui, la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, l'a annoncé ce matin après 3 heures de discussion avec les fédérations de transporteurs qui menaçaient de lancer une grève dure.
On s'est rendu compte que les choses n'étaient pas prêtes, que les entreprises devaient changer leur système informatique, que les règles n'étaient pas claires sur le territoire, que le système très complexe de l'écotaxe, qui, je le rappelle quand même, a été décidé par le gouvernement Fillon et que nous avons essayé de réajuster autant que faire se peut, aujourd'hui pose de vrais problèmes de bon sens, concrets. Et donc, nous avons décidé en responsabilité de suspendre sine die l'application de l'écotaxe. Donc, on prend acte des difficultés qui, si elles étaient appliquées de façon comme ça aveugle, pourraient menacer l'emploi.
Suspension sine die, autant dire enterrement sans fleurs ni couronne. Les routiers ont immédiatement annulé leur mouvement. Un problème de régler donc, mais cette suspension en crée de nouveau. D'abord, Éric Vanier, où va-t-on trouver les quelques 300 millions d'euros que devait rapporter l'écotaxe chaque année?
Alors, deux pistes sont déjà sur la table. La première vise les sociétés d'autoroutes qui sont clairement dans le collimateur du gouvernement, avec leurs super profits, comme le dit Ségolène Royal, et leurs marges sur les tickets de péage supérieurs à 20%. L'idée, ce serait de taxer leurs bénéfices. L'autre piste, c'est de mettre en place une vignette à un prix forfaitaire que devraient payer tous les camions circulant en France. Les organisations de transporteurs routiers ne sont pas contre. Pour eux, c'est une solution préférable à la taxe poids lourd qui tombe automatiquement à chaque passage sous un portique.
Autre problème, Eric, que va-t-on faire de la société Ecomove et de ses portiques, justement?
Alors, les portiques vont être démontés. Chacun d'entre eux avait coûté, selon l'endroit, entre 500 000 et 1 million d'euros en pure perte, donc on le sait maintenant. À quoi il va falloir rajouter 130 000 euros à peu près de frais de démontage. Quant à Ecomove, la société privée créée pour gérer l'écotaxe, gros point d'interrogation. Le gouvernement conteste le contrat qui contiendrait des clauses abusives. Ecomove, de son côté, va inévitablement réclamer des dommages et intérêts pour rupture de contrat et ça pourrait se chiffrer à près d'un milliard, dit-on. C'est donc une longue bataille juridique qui va s'engager par avocat interposé, avec en toile de fond l'incertitude pour les 200 salariés employés par Ecomove.
Merci Eric Vanier du service économique.
Manuel Valls salue une décision sage. Selon le Premier ministre, l'écotaxe était devenue incompréhensible. Les écologistes, eux, sont furieux. La patronne des Verts, Emmanuelle Cosse, se dit scandalisée. La Fondation Nicolas Hulot estime que le dossier est en train de devenir un scandale financier d'ampleur pour l'État.
Notez que Cécile Duflot sera l'invitée demain de Jean-Michel Apathy à 7h50 sur RTL et à 18h20. Donc, l'ex-secrétaire d'État au transport, Frédéric Cuvillier, l'invité d'RTL Soir.
Une forte majorité de Français est d'accord pour moduler les allocations familiales en fonction des revenus, 77% exactement. C'est le résultat d'un sondage Opinionway pour LCI. Les députés socialistes envisagent de déposer un amendement en ce sens. Pour le gouvernement, ce n'est pas à l'ordre du jour.
On craint le pire ce soir pour l'aide-soignante espagnole malade d'Ebola et on découvre qu'il y a eu beaucoup de négligence dans sa prise en charge, Isabelle.
Oui, une responsable de l'hôpital a fait savoir dans un premier temps que l'état de la patiente s'était dégradé. Elle est même en danger de mort, a précisé ensuite le président de région. Son frère lui ajoute qu'elle a dû être intubée. Dans le même temps, le médecin qui a soigné cette femme à son arrivée aux urgences a rendu un rapport révélé par la presse. Un rapport accablant, Martino Dussault.
Oui, le médecin raconte qu'il s'est occupé de l'infirmière jeudi dernier, de 8h du matin à minuit. Elle était très faible, souffrant de diarrhée, de vomissements. Et de ce fait, il affirme qu'il a dû enlever sa combinaison isolante tout à fait inadéquate pour ce cas à 13 reprises. C'est seulement en fin de journée, lorsqu'il apprend par la presse, alors c'est une autre incohérence, après les 2 examens de contrôle effectués, qu'il s'agit bien d'un cas d'Ebola, qu'il va enfiler un autre vêtement, celui-ci de haute sécurité, mais il ajoute que celui-ci était trop petit pour lui est trop court aux manches. Alors l'infirmière est placée en box d'isolement, mais le médecin dit que durant 5 heures, il a insisté lourdement pour qu'on l'évacue vers l'hôpital référent, Carlos Tercero, pour plus de sécurité. Et ainsi, on a cumulé les erreurs. Les autorités sanitaires n'ont pas évalué à temps le danger potentiel. La jeune femme a fait preuve aussi, semble-t-il, de négligence en ne se présentant pas directement à l'hôpital où elle travaille et en menant une vie normale. Elle ne pouvait pas ignorer le risque. Enfin, les professionnels parlent de manque de moyens, de d'informations, autant de fautes qui ont mené au drame.
À Madrid donc pour RTL, Martine Audusseau.
Et aux États-Unis, les spécialistes lancent un cri d'alarme. Selon eux, l'épidémie d'Ebola est comparable à celle du sida et le combat sera très très long.
À suivre, des parents au tribunal pour avoir refusé de faire vacciner leur petite fille.
RTL Soir, 18h10.
RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel.
Et avec Isabelle Choquet pour la suite du journal, 18h11.
Ils ont refusé de faire vacciner leur petite fille. Un couple était convoqué cet après-midi au tribunal d'Auxerre pour maltraitance, Isabelle.
Marc et Samia Larère n'ont pas voulu de l'injection contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, le fameux DT polio, théoriquement obligatoire pour les bébés de 9 mois. Rien de sectaire ou de religieux dans cette décision. Simplement, ils se méfient des adjuvants utilisés dans les vaccins. Raphaël Vantard, vous êtes à Auxerre pour RTL. L'audience a été ajournée.
Effectivement, le président du tribunal correctionnel d'Auxerre vient d'expliquer que la France était assez ambivalente sur cette question de la vaccination. Il y a d'un côté les instructions du ministère de la Santé, de l'autre le droit reconnu de suivre ou non un traitement médical. Cette question sera donc dès ce soir transmise à la Cour de cassation. Une bonne nouvelle pour l'avocat de ce couple d'Auxerrois, maître Emmanuel Ludo.
Il faut que le Conseil constitutionnel statue et qu'il dise de manière claire qu'effectivement, aujourd'hui, en France, les parents français sont responsables et sont en mesure de choisir s'il y a lieu de vacciner ou de ne pas vacciner leurs enfants.
Au premier rang du tribunal, le visage tendu en début d'audience, les époux, l'horaire poursuivi entre autres pour maltraitance, ont failli applaudir à l'annonce du report de leur procès. À la sortie, Marc, le père de famille, retrouve le sourire.
Et on a été entendu, tant mieux, j'avais confiance en la justice de mon pays, on verra par la suite. Effectivement, on va pouvoir relâcher un petit peu la pression, faire du bien.
Le couple va effectivement pouvoir souffler plusieurs mois, le temps que la Cour de cassation, puis éventuellement le Conseil constitutionnel, tranche cette question de l'obligation de vaccination en France.
À Auxerre pour RTL, Raphaël Vantard.
Une saisie d'armes absolument exceptionnelle près de Tours. Plus de 1300 armes et des munitions ont été trouvées chez un collectionneur. Une partie de cet arsenal n'était pas ou mal démilitarisée. À Strasbourg, un homme vient d'être condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir crié « Vive l'État islamique » dans les locaux d'une caisse d'allocation familiale. Il menaçait de revenir avec une arme.
Et on en vient à cette enquête. Au résultat surprenant, Isabelle, 4 enfants sur 5 ne savent pas à quoi ressemble un poireau.
Une enquête réalisée auprès d'enfants de 5 à 10 ans par le site WeCook à l'occasion de la semaine du goût qui démarre lundi prochain. Alors ça paraît tellement incroyable que Jacques Seré a voulu vérifier par lui-même pour RTL devant un étal de légumes.
C'est un poivron, non ?
Je sais pas.
Une aubergine.
Ah oui, voilà, une aubergine.
C'est assez grand.
Un concombre.
Une courgette.
Une courgette.
Est-ce que tu sais ce que c'est ?
Non, j'ai oublié.
C'est un poireau. Ça, tu sais ce que c'est ?
Ah, je sais plus.
C'est un poireau.
Ah, oui, du coup.
Est-ce que tu connais ce légume ?
Un avocat ? Non.
Une aubergine. Attention, premier qui répond. Qu'est-ce que c'est ?
Artichaut.
Artichaut.
Poireau.
Poireau, c'était pas.
Concombre.
Concombre.
Courgette.
Je sais que c'est très bon. Je sais quel goût ça a, je sais comment c'est, mais je sais pas le nom.
C'est une courgette.
Une courgette. C'est moi la courgette.
C'était la courgette. Reportage de Jacques Seret. Éric Zemmour, Alain Duhamel, donc deux signatures RTL vont s'affronter tout à l'heure à l'antenne, dans pile une heure maintenant, un match qui se joue déjà en librairie.
Éric Zemmour vient de publier Le Suicide français, un ouvrage qui livre son explication du déclin français. Alain Duhamel a sorti le mois dernier une histoire personnelle de la 5e République, évocation des scènes politiques qui l'ont marqué au fil de sa longue carrière. Patrick Hisson, vous vous êtes rendu à la librairie Priva de Toulouse et pour l'instant, au compteur, c'est Z qui l'emporte.
Oui, pour l'instant, le Zemmour fait un carton à tel point que le livre est quasiment introuvable, comme l'explique ce Toulousain.
C'est rupture de stock dans pas mal de librairies dans Toulouse. C'est au moins la 4e ou 5e. J'ai regardé l'émission sur France 2. C'est une émission qui était assez générale, où on n'a pas approfondi les choses, donc j'aimerais bien me faire ma propre idée sur ce livre.
Mais tout espoir n'est pas perdu pour le Duhamel, selon Christine Millès, la libraire.
Je pense que Duhamel se vendra dans la durée. Comparativement, ça va être ça. C'est plus offrable à tout le monde. Zemmour, c'est des coups de gueule, donc on sait par avance qu'on peut peut-être froisser des personnes, on ne sait jamais.
Quant au match entre les deux, les avis sont très partagés dans cette librairie.
Zemmour, il parle, il met les points sur les i. Beaucoup de choses, il parle là où ça fait mal un peu.
Du Hamel, c'est évident. Zemmour, non. Franchement, c'est caricatural. Moi, c'est pas quelqu'un. Il n'a pas une position à laquelle je peux adhérer. C'est pas possible.
Enfin, 22,90 contre 19,50. Ce ne sont pas des pourcentages de voix, mais le prix des livres d'Éric Zemmour et Alain Duhamel.
Et ça sera gratuit tout à l'heure à 19h15. À tout à l'heure, Isabelle, vous revenez à 18h30. Les clés pour bien comprendre l'actualité. Ce serait la quatrième hausse du paquet de cigarettes en 2 ans, après avoir augmenté de 40 centimes en octobre 2012, puis de 20 en juillet 2013, de nouveau de 20 en janvier dernier. RTL vous révélait ce matin que le gouvernement augmentera ses taxes sur les cigarettes de 30 centimes en janvier prochain. Et la question qui se pose, c'est est-ce que les industriels du tabac sont obligés de les répercuter sur le prix de vente, Martial Youx ?
Eh bien non. Quand on parle de ces 30 centimes au 1er janvier, c'est le chiffre effectivement sur la table en ce moment, il s'agit de ce que les techniciens de Bercy appellent le minimum de perception. C'est une hausse de prix qui ne concerne que les cigarettes les moins chères, celles qui sont à 6,50 € en ce moment. L'argument de tous les gouvernements depuis des années pour justifier ces hausses, c'est un argument de santé publique. On augmente les premiers prix pour décourager les petits revenus, notamment les jeunes, de rentrer dans le tabagisme. Accessoirement, ça permet aussi à l'État d'engranger entre 150 et 600 millions d'euros. Mais ça signifie que les marques premium, comme Marlboro, ne sont pas concernées par ces hausses, en théorie, et peuvent très bien s'en abstenir.
Pourtant, on voit bien que tous les paquets prennent la même hausse, le même jour, à chaque fois qu'il y a des augmentations de tarifs.
Oui, parce que depuis des années, il y a une sorte de règle tacite, avec les douanes d'ailleurs, qui veut qu'il y ait toujours 50 centimes d'écart entre la marque la moins chère et la marque la plus chère. Mais il n'y a aucune loi qui oblige à maintenir cet écart. Si l'État veut être sûr de toucher les marques les plus chères, il faut qu'il augmente les taxes sur les cigarettes. Actuellement, sur un paquet à 7 €, il y a 5,60 € de taxes, 80%. Eh bien, il faudrait augmenter à ce moment-là encore ce qu'on appelle le droit de consommation, pas 80, mais 81%, par exemple.
Merci, Martial Youx. À suivre, Ségolène Royal a donc enterré l'écotaxe. Pourtant, l'ancien secrétaire d'État au transport des gouvernements Hérault et Valls 1 avait tout fait pour la sauver. Frédéric Cuvillier a réservé à RTL Soir sa première réaction.
RTL Soir. Marc-Olivier Fogiel jusqu'à 20h.
Il est 18h21.
Premier invité d'RTL Soir, Frédéric Cuvillier, donc l'ancien secrétaire d'État au transport, député maire PS de Boulogne-sur-Mer. Bonsoir.
Bonsoir.
Les routiers ont donc eu la peau de l'écotaxe. Pour Manuel Valls, c'est une décision sage. Et pour vous ?
Oui, c'est une décision sage. Je rappelle que ça n'est pas l'écotaxe qui est concernée, mais bien la taxe transit, le péage transit poids lourd qui a été inventé à la nomination de Ségolène Royal en substitution de l'écotaxe. Mais l'écotaxe avait été votée par la loi, par le Parlement, à l'unanimité en 2008 et une deuxième fois en 2013. Le fait d'avoir substitué à ce dispositif écotaxe un dispositif improvisé, péage transit, était refusé parce que il posait d'énormes difficultés aux transporteurs. Mais aujourd'hui, cette suppression, elle pose d'énormes questions, d'énormes problèmes, notamment pour le financement des infrastructures.
Alors, Ségolène Royal, qui a donc, on l'a bien compris, créé la confusion avec son nouveau dispositif et qui a dû le retirer, selon vous, elle dit, c'est facile finalement, on va prélever sur les profits des sociétés d'autoroutes, elle a la solution.
Oui, simplement, il existe des contrats lors de la privatisation des autoroutes. Moi, j'ai été le seul ministre à taxer les autoroutes et à doubler le prélèvement de l'État sur ce qu'on appelle la redevance domaniale. Mmh. Il m'en a fallu 2 ans et un combat juridique très, très difficile. Le prélèvement sur les autoroutes aura donc des répercussions. Ce sera répercuté dans le prix du péage des autoroutes. Ou alors, il faut qu'il y ait des mesures qui peuvent s'assimiler à une forme de renationalisation des autoroutes. Il y a un rapport qui est le rapport Chanteguet, d'un député, d'une commission qui se met en œuvre. Mais tout cela portera des effets dans plusieurs années.
Oui, donc
or, aujourd'hui, il faut financer maintenant, puisque ça fait maintenant plus d'un an et demi que les financements des infrastructures ne se trouvent pas assurés.
Frédéric Cuvillier, vous dites quoi ? C'est quand même un énorme gâchis, tout ça.
Oui, c'est un gâchis, parce que d'une idée qui avait été une idée unanime, certains en ont pris, ont pris cette idée en otage pour en faire de la politique politicienne. Il fallait laisser la chance aux députés Chanteguet, au Parlement. J'avais demandé un rapport au Parlement. Je rappelle que l'écotaxe est votée par la loi. Et donc, il faut respecter la souveraineté législative.
Ce que ne fait pas Ségolène Royal, donc.
Ce qui n'est pas fait par ces mesures successives de suspension et d'abandon, finalement. Et puis, il y a aussi des préconisations et un dialogue nécessaire avec les différents acteurs. Vous savez, en 5 mois, les transporteurs routiers n'ont pas été consultés sur la nouvelle mouture du péage transit poids lourd. Comment voulez-vous qu'il y ait une acceptabilité du dispositif ?
Donc, on comprend bien ce soir que pour vous, celle qui a tout gâché, c'est donc Ségolène Royal, et qu'avec ses méthodes, finalement, elle a fait reculer beaucoup votre combat.
Non, ce qui est évident, c'est qu'il y a un dispositif qui n'était maintenant plus compréhensible. Et le Premier ministre a raison de le souligner, qu'il n'était plus, qu'il était sage, puisque le dispositif était devenu incompréhensible. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas passer de système écotaxe qui a été voté, un principe voté, des contrats négociés, dans des conditions qui étaient d'ailleurs à discuter, une loi qui a dû rectifier, un décret qui a mis en place un système de majoration, tout cela est un peu technique, mais garantissant les transporteurs routiers, parce qu'il y a une profession qui est fragile et qui ne peut pas être ballottée d'une déclaration médiatique à une autre.
Un mot, s'il vous plaît, un mot, Frédéric Cuvillier, ça va coûter cher, puisque Ecomouv, on a des contrats avec eux, on parle d'un milliard, c'est ça?
Ça fait partie des questions qui sont posées après cet abandon. Il y a d'abord la perte de recettes. Elle est énorme pour l'AFIT, c'est-à-dire l'Agence de financement des infrastructures, pour les contrats de plan État la région, pour toutes les infrastructures, et donc les milliers d'emplois des travaux publics qui sont concernés par la commande publique. Et puis, bien sûr, l'indemnisation de la société Ecomouv.
Merci beaucoup, Frédéric Cuvillier, d'avoir réservé à RTL vos premières déclarations. À suivre, à l'occasion de la visite de François Hollande à Angoulême, dans un centre qui prend en charge les autistes, on va vous faire vivre le quotidien de ceux qui n'ont pas la chance d'être aidés, le quotidien d'une maman seule avec sa fille autiste.
Marc-Olivier Fogiel.
RTL Soir, 18h-20h. Il est 18h29.
Le plan autisme. Depuis son annonce en 2013, de nombreuses familles rêvent d'être aidées, soulagées. Alors au moment où François Hollande fait le point à Angoulême sur l'avancée de ce qui a été lancé, on va vous faire vivre le quotidien d'une maman qui vit avec sa petite fille autiste. Racontez-nous, Anne Le Hénaff.
Alors il n'y a plus de poignées aux fenêtres du trop petit appartement de Saint-Denis. Linda les a enlevées par peur que sa fille, qui n'a pas conscience du danger, n'en ouvre une et tombe du troisième étage. Une chambre pour les deux fils aînés et une autre pour sa fille. Linda dort par terre à ses côtés. En fait, elle ne dort jamais vraiment. Au cas où Lilia, 8 ans et demi, se réveille. La vie de Linda, c'est une énergie concentrée sur l'organisation de la vie de sa fille. Une vie de sigles, la méthode ABA, les IME, les CESA, de la MDPH, les AVS. Autant de structures, d'aide qu'elle veut maîtriser pour faire avancer sa fille qui chantonne à ses côtés.
Mais cette enfant, elle va à l'école?
Alors oui, elle va à l'école en CP, 5 demi-journées par semaine avec une AVS, une assistante de vie scolaire. Lilia ne pourrait pas suivre toute seule. C'est le problème d'ailleurs, toutes les activités sociales ou sportives de la ville lui sont par exemple fermées, faute d'accompagnement. Car Linda veut que sa fille soit suivie par des gens formés à ce qu'on appelle la méthode comportementale. Ça existe via des associations, mais c'est cher, très cher. Linda s'est endettée pendant 3 ans avant de devoir renoncer.
90 000 euros, donc. Elle arrive à travailler?
Alors, elle a tenu longtemps un travail de nuit dans une grande surface à 40 km de chez elle, afin de pouvoir s'occuper de sa fille le jour. Mais Linda, évidemment, a fini par craquer. Elle est maintenant en arrêt maladie depuis des mois. Elle suit des formations pour mieux guider sa fille et vit au jour le jour, enfermée finalement, elle aussi, dans la maladie de sa fille.
Merci. Les coulisses de l'actualité, t'es signé Anne Le Hénaff, le plan autisme 2013. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. RTL. Il est 18h30 sur RTL.
RTL Soir.
18h-20h avec Marc-Olivier Fogiel.
Et avant qu'Alain Duhamel ne se demande ce qu'il reste du socialisme, le point sur l'actualité, Isabelle Choquet.
Et d'abord cette dernière minute, les locaux de la DAS sont bouclés à Cergy-Pontoise en région parisienne. On suspecte un cas d'Ebola, 60 personnes sont enfermées dont certaines reviennent de Guinée.
Et à l'instant, Londres introduit un dépistage des voyageurs dans certains aéroports et gares.
Et en Espagne, l'aide soignante malade d'Ebola est désormais en danger de mort. Son état s'est dégradé, elle a dû être intubée. L'écotaxe suspendue Sinédié, Ségolène Royal promet un groupe de travail et se concentre désormais sur la taxation des sociétés d'autoroutes. Les routiers ont renoncé à leur menace de grève, mais les écologistes sont scandalisés. L'armée algérienne vient de découvrir le campement où a été retenu Hervé Gourdel, l'otage français décapité il y a 2 semaines, information de nos confrères d'El Ouattan. Le Nobel de littérature pour Patrick Modiano, 15e français récompensé, nous sommes champions du monde. L'Académie parle d'un Marcel Proust de notre temps. La météo, Louis Baudin, nouvelle alerte aux orages cette nuit sur 4 départements du Sud.
Oui, c'est vrai, encore dans le Languedoc, la basse vallée du Rhône, on attend beaucoup de pluie, comme les sols sont déjà saturés, mais on craint de nouveau des inondations assez fortes à partir de la nuit prochaine. Beaucoup de pluie également des Pyrénées aux frontières de l'Est, plus d'éclaircies dans le nord et le nord-ouest. Côté température, encore de la douceur, 17 à 21 degrés au nord comme au sud, et jusqu'à 28 près de la Méditerranée.
À tout à l'heure, Louis. Isabelle, c'est pas parce que vous m'avez mis en retard que vous devez partir si vite, vous étiez déjà en train de vous lever.
J'ai honte.
Vous pouvez. À demain, Isabelle. Bonne soirée.
RTL Soir, il est 18h32.
Avant d'affronter tout à l'heure Éric Zemmour à 19h15, on retrouve évidemment comme tous les jours Alain Duhamel. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Alors prêt ?
Oui, Éric Zemmour est un interlocuteur redoutable, mais j'ai l'esprit sportif.
Alors, le débat qui fait rage à gauche sur la politique économique et sociale pose une question jusqu'ici taboue. Que reste-t-il du socialisme en France ?
Eh bien, pour aller à l'essentiel, du socialisme en France, il reste pour l'instant les socialistes. Le socialisme, c'est le projet unificateur de la gauche qui a été la grande utopie pendant plus d'un siècle, pendant en gros 130 ans, depuis la fin du 19e jusqu'à la fin des années 2000. On voit bien qu'il s'est d'abord enlisé, puis disloqué. Sa première caractéristique, c'était, on le sait, ce que les marxistes appelaient les moyens de production et d'échange qui devaient être socialisés. Bon, les nationalisations, elles ont atteint un pic en 1981. Depuis, elles n'ont cessé de décliner et elles sont devenues résiduelles. En ce qui concerne le modèle social français, il a été très influencé par le socialisme, il l'a été aussi par le général de Gaulle ou par les démocrates chrétiens, mais il a été très influencé par le socialisme. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il est attaqué de toutes parts, y compris par les socialistes, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Quand on parle du travail le dimanche, quand on parle des seuils sociaux, quand on parle des indemnités chômage, c'est évidemment le modèle social français qui est attaqué. Et puis, en ce qui concerne les inégalités, qui sont quand même le critère des critères pour le socialisme, les inégalités qui ont reculé pendant très longtemps en France augmentent maintenant depuis des années dans tous les domaines, dans le domaine scolaire, dans le domaine médical, dans le domaine de l'habitat. Et donc, les socialistes français, le socialisme français, se sont devenus des sociolibéraux.
Et ce débat, est-ce qu'il n'alimente pas finalement les thèses de Marine Le Pen sur le parti unique UMPS
Inévitablement, mais d'ailleurs pas simplement celui de Marine Le Pen, aussi celui de Jean-Luc Mélenchon, qui exprime exactement les mêmes critiques. La réalité, quand on regarde de près, c'est quand même un peu différent. D'une part, il y a sujet par sujet entre les socialistes ou les sociolibéraux et puis la droite des différences qui sont très faciles à répertorier. Par ailleurs, on a l'air de découvrir que les différences se sont réduites entre la gauche et la droite. La réalité, c'est qu'on est tout simplement en train de se mettre aux normes universelles. On était en retard, on était les derniers des Mohicans et on ne l'est plus. Et puis, il y a quelque chose dont il faut quand même tenir compte, c'est que si les socialistes ont évolué en devenant les sociolibéraux, ceux qui étaient les gaullistes sont devenus des libéraux tout court.
Pour terminer, est-ce que ce déclin du socialisme en France, il existe en dehors de nos frontières ?
Mais bien sûr, il est universel. En Europe, on était les derniers à défendre, quand je dis on, je veux dire les socialistes étaient les derniers à défendre une conception de la politique qui était réellement correspondant aux dogmes initiaux. Dans tous les autres pays d'Europe, on s'était converti soit à la social-démocratie, soit au social-libéralisme. Les deux mastodontes socialistes qui s'intitulaient communistes et qui étaient la Chine et l'Union soviétique, on a vu ce qu'il en est advenu. L'Union soviétique s'est effondrée, disloquée, et la Chine s'est métamorphosée de l'intérieur. Alors il reste, pouvant s'appeler socialiste, une demi-douzaine, même pas, de pays en Amérique latine, en Amérique centrale. Mais là, il faut la mystique de Jean-Luc Mélenchon pour y trouver des modèles.
À tout à l'heure, Alain. 19h15.
À tout à l'heure.
À suivre, c'est l'une de nos plus grandes athlètes. Elle a été au sommet de l'athlétisme mondial. C'était il y a 20 ans et elle est toujours présente dans le cœur des Français. Mais qu'est devenue Marie-Jo Pérec ? À l'occasion d'une course pour la bonne cause, on va prendre de ses nouvelles.
RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel.
18h39 et la deuxième invitée d'RTL Soir, Marc-Olivier.
Et la deuxième invitée d'RTL Soir, la gazelle qui rechausse les baskets. Bonsoir Marie-Josée Pérec.
Bonsoir.
On est heureux de vous retrouver, ça fait si longtemps Marie-Josée.
Bah écoutez, je ne suis pas une personne de la radio ni de... Voilà, j'aime bien rester incognito, donc voilà.
Et en tout cas, si vous êtes là ce soir, c'est pour la bonne cause, puisque vous rechaussez les baskets. Dimanche, vous êtes la marraine de la Run and Bike Solidaire, donc une course, une première à Paris. C'est une course en binôme, un à vélo sur 10 km, l'autre à pied dans le parc de Saint-Cloud, au profit de Secours Populaire. Vous serez donc à pied, Marie-Josée.
Je ferai un petit peu des deux. Ce que je trouve sympa, c'est que c'est une course qui va permettre d'offrir des licences aux enfants, aux enfants dont les parents ne peuvent pas justement les inscrire à une activité sportive dans ce début d'année scolaire. Donc je trouve que c'est quelque chose de positif.
Alors si vous, à chaque fois, vous rompez l'armure et que vous revenez au devant des médias, c'est toujours maintenant pour la bonne cause. On se souvient, la dernière fois que vous l'aviez fait, c'était en 2013. Vous aviez fait le marathon de New York en moins de 5 heures au profit d'Haïti. On va y revenir. Mais déjà sur la motivation, vous, aujourd'hui, c'est ça qui vous porte, c'est d'aider les autres, Marie-Josée Pérec hein.
Ben en tout cas, c'est de faire plaisir aux gens et en même temps, on se fait aussi plaisir parce que c'est vrai que par exemple, courir un marathon, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Monter à vélo, j'avoue que ça n'a jamais été quelque chose qui me passionnait. Mais de le faire vraiment pour les autres...
Ça vous plaît ?
Ça me plaît.
Ça vous parle ?
Voilà.
Notamment depuis que vous êtes maman ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié à ça, Marie-Josée?
Oh, je pense que lorsqu'on devient maman, on change.
Ouais.
On a une autre manière de voir les choses. On est moins centré sur soi-même.
Qu'est-ce que ça a changé chez vous d'être maman d'un petit garçon qui s'appelle Nolan, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ouais.
Tout simplement d'être moins égoïste,
voilà, ouais,
et de ne pas penser à soi. Et c'est vrai que, en fait, les sportifs, justement, c'est toujours nous. Ouais. On pense à nous, on pense aux objectifs. En fait, moi, j'étais toujours centrée sur ma petite personne. Et puis finalement, je dirais que le fait d'être maman, ça m'a permis de m'épanouir, de m'ouvrir, en tout cas d'aller vers les autres. Voilà.
Depuis que vous avez arrêté le sport, ça fait pile 10 ans à la retraite. On va y revenir, on va regarder en arrière, Marie-Josée. On sent bien que vous vous êtes ouverte aux autres, comme vous dites. On avait l'image d'une athlète hyper populaire, mais hyper timide, hyper sous pression.
Je reste timide.
Voilà, vous êtes beaucoup plus souriante. On a l'image de cette gazelle aux grandes jambes, mais qui était terrorisée dès qu'il y avait un micro. Alors évidemment, il y avait Sydney, ce mode 2000, le moment où vous avez quitté les Jeux avant même de pouvoir les courir. Quand vous regardez la Marie-Josée Pérec d'avant, vous avez quelle... C'est pas la même, comme vous dites. Mais elle vous inspire quoi, la Marie-Josée Pérec d'avant?
Bah écoutez, je dirais que ça fait partie de moi. Hein. Cette vie-là, je l'ai vécue, je l'accepte. Hein. J'ai fait des choses extraordinaires. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, je suis passée à autre chose. Et c'est comme cela. Et ça, vraiment, ça me plaît. Hein.
Vous rayonnez. Mais quand, par exemple, ce matin, vous avez certainement vu Laure Manaudou, qui, à l'occasion de son livre et un peu partout, elle est tout à l'heure chez Christophe Paco, dire qu'elle a connu le succès des JO d'Athènes en 2004, avant de connaître l'échec de Pékin en 2008. Elle dit « J'ai connu une dépression après les Jeux de Pékin. J'avais l'impression que tout le monde parlait mal de moi. » Marie-Josée Pérec, j'imagine que ça lui parle, ça.
Effectivement, moi ça me parle vraiment d'entendre ça. J'ai l'impression même que c'est moi qui le dis. Et vraiment, je le comprends. Je le comprends parce que je suis passée par là. J'ai eu des moments très très difficiles. En fait, aujourd'hui, lorsque je regarde en arrière, j'ai l'impression que j'étais presque un robot qui avait été préparé en fait pour tout gagner. Et qu'il n'y avait pas d'autre issue.
D'où le pétage de plomb à Sydney, en fait. Un robot qui a explosé, en fait.
Exactement.
Et qui fait aujourd'hui la femme que vous êtes. Aujourd'hui, vos médailles, Marie-Josée Pérec, vos nombreuses médailles, puisque on ne les compte pas, triple médaille d'or olympique, double championne du monde, vous en avez fait quoi?
C'est marrant parce qu'en fait, avant la naissance de mon fils, elles étaient à ma cave et puis finalement, je suis allée les chercher. Tout simplement les chercher pour lui en me disant bon, ça serait couillant qu'on me les vole et que je lui dise un jour, tu sais, en fait, voilà ce que j'ai fait. Et qu'il me dise, ouais, maman.
Donc, c'est super mignon. La maman était chercher les médailles à la cave pour être bien sûr de pouvoir les montrer. Il a quel âge, Nolan, aujourd'hui?
Il a 4 ans.
Il a 4 ans, voilà. Donc il sait que sa maman était une grande athlète.
Forcément, parce que les gens m'arrêtent dans la rue. C'est marrant parce que mon petit garçon, presque tous les jours, je l'emmène en fait au bois de Boulogne après l'école. Et il me dit, bon, tu sais ce qu'on va faire, maman? On va rentrer vraiment dans les bois, comme ça les gens ne vont pas t'arrêter parce que je te veux pour moi tout seul.
Comment vous expliquez ça d'ailleurs, Marie-Josée, que ça fait 20 ans finalement que vous avez eu ces médailles pour certaines, 20 ans après, vous avez encore ce lien avec le public. Moi, quand j'ai vu que vous aviez cette course pour l'association, je me suis dit, il faut qu'elle vienne, Marie-Josée, on a envie d'avoir de ses nouvelles, savoir ce qu'elle fait depuis tout ce temps-là. Comment vous expliquez ce lien fort avec le public?
Oh, je dirais que les gens m'aiment bien et puis souvent en fait les gens racontent ce qu'ils ont vécu les fois où ils m'ont regardé gagner au jeu et puis mais vraiment hein, j'ai l'impression qu'ils me parlent de quelque chose qui s'est passé hier, donc je leur rappelle, je lui dis mais vous savez ça fait un moment hein. Ah ben, ils disent, c'est dingue, on a l'impression que c'était hier, avant-hier.
Mais Barcelone c'était en 92, c'était avant-hier on va dire. Vous regardez aujourd'hui l'athlétisme, Marie-Josée?
Écoutez, cet été, j'ai regardé
le championnat d'Europe
un petit peu, puisque j'ai perdu ma maman, donc j'avais la tête un petit peu ailleurs, j'ai quand même regardé de loin et. Enfin, c'est extraordinaire hein, ce qui se passe sur cette équipe de France. C'est un sport individuel, mais j'ai l'impression qu'il y a une vraie équipe. On croirait que c'est un sport collectif. Enfin, il se passe vraiment quelque chose. J'ai vraiment l'impression que les sportifs d'aujourd'hui, ils sont fiers d'être français. Enfin, c'est une marque aujourd'hui, alors qu'avant, notre maillot, on se cachait presque parce que c'était une France qui ne gagnait pas. Finalement, on n'était que quelques-uns.
Et c'est une France black, blanc, beurre comme.
Ça, c'est très important.
J'imagine que c'est important parce qu'on en a besoin de l'entendre, ça. C'est la France black blanc beurre qui gagne aujourd'hui. Ça existe encore, ça, pour vous?
Pour moi, c'est la richesse tout simplement de la France. France.
Dimanche, donc vous serez à vélo et à pied, 10 km pour la Run and Bike solidaire au profit du Secours Populaire. On est heureux de vous avoir vu aussi en forme, Marie-Josée Perec.
Ben, merci beaucoup et puis j'invite les gens à venir. C'est une course qui est ouverte en fait à tout le monde. Venez nombreux et pensez aux autres.
Merci Marie-Josée.
Merci.
RTL Soir, il est 18h46.
Merci ma gazelle, je parle à vous Virginie.
Merci mon gazou.
À suivre les essentiels de l'info d'RTL Soir, la météo. Avant Laurent Gérard, n'oubliez pas votre face-à-face Zemmour Duhamel à partir de 19h15.
RTL Soir,
Marc-Olivier Fogiel jusqu'à 20h.
Il est 18h48, les essentiels de l'info de RTL Soir.
On l'a appris il y a quelques minutes, les locaux de la DAS sont bouclés à Cergy-Pontoise en région parisienne. On suspecte un cas d'Ebola, 60 personnes sont confinées, certaines reviennent de Guinée. On va évidemment revenir dès le début du journal de 19h. Pendant ce temps, Londres met en place un dépistage renforcé dans ses aéroports et ses gares. Dépistage des voyageurs en provenance des pays africains touchés par Ebola. En Espagne, l'aide-soignante malade est désormais en danger de mort. Son état s'est dégradé. L'écotaxe suspendue, sinédiée par Ségolène Royal. Les routiers renoncent à leur grève, mais les écologistes sont furieux. Écoutez Emmanuel Cosse, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts.
Je suis très en colère parce que déjà il y a un an, l'écotaxe est passé de 15 000 km concernés à 4 300. On a réduit le périmètre, on a réduit l'assiette. Et aujourd'hui, on nous explique qu'il y a un report sinédié, qu'il y aura des groupes de travail. Mais je suis scandalisée. Et il y a des transporteurs routiers qui continueront à bloquer toute réforme de leur métier.
Ségolène Royal indique qu'elle se concentre désormais sur la taxation des sociétés d'autoroutes. Et puis le prix Nobel de littérature pour Patrick Modiano. C'est le 15e Français qui reçoit cette prestigieuse récompense. À 69 ans, c'est une consécration pour l'écrivain qui n'en revient pas.
Ça me semble un peu irréel, parce que je me rappelle des souvenirs d'enfance, même Camus, quand j'avais, je devais avoir 12 ans, le prix Nobel, de suite ça, et puis d'autres. Donc ça me semble un peu irréel, en fait, d'être confronté avec des gens que j'ai admirés quand j'étais adolescent.
RTL Soir.
Avec Marc-Olivier Fogiel.
Alors Louis Baudin, demain toujours beaucoup d'humidité du sud-ouest au nord-est et de fortes pluies dans le Languedoc encore.
Et oui, ça recommence avec une vigilance effectivement dans l'Hérault, le Gard, l'Ardèche ou encore la Drôme en raison de ces fortes pluies parfois accompagnées d'orages. Et comme tout cela va arriver sur des sols saturés, eh bien on risque encore d'avoir des inondations. Alors ça va se prolonger probablement jusqu'au week-end. Pendant ce temps-là, beaucoup de pluie également des Pyrénées aux frontières de l'Est, toujours pour la journée de demain. Puis au nord d'une ligne Bordeaux-Metz, là ça sera mieux, un petit peu comme cet après-midi où on aura plus d'éclaircies après dissipation de quelques brouillards et puis peu d'averses si ce n'est sur le littoral de la Manche. Beaucoup de soleil également entre les Alpes et la Corse. Puis côté température, toujours de la douceur, notamment en cours d'après-midi. 17 à 21 degrés au nord comme au sud et localement encore 24 à 28 degrés près de la Méditerranée.
On approche du week-end et...
Et malheureusement, on va surveiller cette situation dans le sud, notamment dans le Languedoc-Roussillon où pour samedi et dimanche, on craint encore de fortes averses orageuses et peut-être même un nouvel épisode cévenol entre dimanche et lundi. Alors dans les autres régions, on aura également des passages nuageux, de la pluie, un petit peu moins samedi, un petit peu plus dimanche. Même chose pour la journée de lundi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de mardi, tout cela devrait lentement s'améliorer.
Merci Louis. Alors Virginie?
Oui, c'est mon prénom, Marco.
Je sais bien. Ce matin, chez Laurent Gérard, c'était au théâtre ce soir.
Et l'adaptation du livre « Merci pour ce moment ». Écoutez.
Aujourd'hui, Laurent Ruquier reçoit dans ses grosses têtes un invité particulier.
Bonjour, avec vous aujourd'hui, vos grosses têtes. Tout d'abord, une grosse tête qui aime cuisiner nos invités et les mettre sur le grill. Jean-Pierre Coff, ça va Jean-Pierre?
Aux petits oignons, Laurent, aux petits oignons.
Aux petits oignons. Et aussi, une grosse tête qui est notre chouchou et qui n'a rien d'un cul béni. Pierre Bénichou. Excellent, Pierre Bénichou. Eh bien, chers amis, aujourd'hui, nous recevons un invité. C'est vrai, on ne le faisait plus, mais pour cette émission exceptionnelle, je vous demande, mesdames, mesdames et messieurs, de réserver un tonnerre d'applaudissements pour notre invité du jour, Nicolas Sarkozy.
Bonjour. Bien le bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Laurent Ruquier, bien aimable de m'inviter. Hein. Il n'est pas là, Philippe Bouvard? Non, je plaisante. Je sais que M. Bouvard, il a pris sa retraite des grosses têtes. Marquez, j'en connais une autre de grosses têtes, toute teintée, qui ferait bien de la prendre, sa retraite.
Eh bien, je propose que nous commencions tout de suite par une question. Question d'un auditeur, M. Jean-François Copé, de Meaux. Ah, un mêle-doigt, c'est sympathique. Alors, comment s'appelle le système qui consiste à blanchir de l'argent par l'organisation fictive d'événements. Une précision pour nos auditeurs, ça rime avec ion.
Ben moi, je vois pas du tout. Hein. Blanchir de l'argent, je sais même pas ce que ça veut dire. Alors, ça se blanchit de l'argent, c'est bizarre, non?
Une réponse de nos grossettes, peut-être.
Qui rime avec ion? Non, mais qu'est-ce que c'est que ces questions là? C'est de la merde. J'en sais rien, moi, un étouffe pognon.
Une idée, Pierre Bénichou.
Un piège à con.
Mais non, c'est pas ça. Eh bien, je vous donne la réponse. C'est le système Big Malion.
Big Mac quoi? Oh, ben, j'ai jamais entendu ça, hein.
Bonjour Michel Chevalet, ça faisait longtemps.
Bonjour Mademoiselle Jade, vous vous souvenez comment ça marche?
Oui. Hein,
alors vous vous souvenez de l'odorphone ou l'ophone?
Bah oui Michel, le téléphone avec lequel il sera bientôt possible d'envoyer et de recevoir des odeurs par SMS et dont la sortie est prévue début 2015. Mais vous êtes déjà venu nous le dire ça.
C'est exact Mademoiselle Jade, je vous avais dit comment ça marche et j'avais ajouté, c'est pas compliqué. Mais pour que l'ophone marche, il faut l'alimenter, c'est pas compliqué. Ça c'est la sonnerie, j'avais oublié de la couper avant de rentrer dans le studio.
Ah oui oui, mais ça se sent. Mais oui oui. Et comment est alimenté l'ophone?
Avec des piles ou en le branchant sur le secteur. Mais le modèle le plus performant se recharge directement en énergie odorante.
En énergie odorante?
Oui. Il suffit d'alimenter cet ophone en chou-fleur bouilli, en cassoulet, en lentilles, en artichaut. Et quand vous leur enverrez un SMS olfactif, vous serez sûr d'étonner vos amis.
Oui, merci Michel.
Attendez, encore une précision. Cet ophone a aussi une option réveil matin. Imaginez par exemple, Mademoiselle Jade, si vous vouliez être réveillé à 9h.
Oh bah je me lève beaucoup plus tôt, hein, Michel.
Eh bien, si c'est à 6h, oui. Vous allez régler sur 6 l'heure, l'option réveil du matin de l'ophone. Et bientôt,
oui.
Va retentir une salve qui, croyez-moi, va vous sortir du lit à 6h pétante. Si vous voulez, on peut le faire sonner à 9h.
Oui, bah écoutez, non, merci Michel, on va s'arrêter là.
Hein.
Demain, François Hollande va recevoir Arnold Schwarzenegger à l'Élysée pour un entretien d'une heure. L'annonce de cette visite n'a pas manqué de faire réagir une autre star de Hollywood de passage à Paris.
Doc, 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 doc. On a frappé et de façon énergique, ça doit être Arnold Schwarzenegger. Je suis enrhumé, ça doit être Arnold Schwarzenegger qui vient me voir avec un jour d'avance. Entrez, monsieur Schwarzenegger.
Mauvaise pioche, colonel Hollande. C'est moi, Rambo. Alors comme ça, j'apprends que t'as invité Arnold Schwarzenegger sans me prévenir. Si c'est lui et pas moi que tu veux envoyer chez les barbares barbus pour jouer les Terminators, faut me le dire.
Détrompez-vous. Sur les conseils de Nicolas Hulot, j'ai invité pour parler des changements climatiques.
Si tu veux un changement climatique en Syrie, c'est moi que tu dois envoyer. Et pas le culturiste de San Francisco. J'aime mieux te dire que je vais en faire pleuvoir des balles traçantes, des obus, des missiles sur ces fanatiques. Je leur pourrais le climat, un orage d'acier qui va leur tomber sur la tronche, un océan de napalm.
Mais calmez-vous, Jean Rambo. Je vous assure que nous allons parler de la pluie et du Rambo temps. Et...
Te fous pas de ma gueule, colonel Hollande, ou je te fais une guerre comme t'en as jamais vu.
Allez, on retrouve demain, évidemment.
À 8h40.
Dans la matinale d'Yves Calvi. Dans 3 minutes maintenant, le journal de 19h avec la première alerte Ebola en France. C'est une info RTL, donc une soixantaine de personnes sont confinées dans les locaux de la DAS et de l'Agence régionale de santé à Cergy-Pontoise. On espère que c'est une par mesure de précaution. Mais en tout cas, un médecin présent dans les locaux a donné l'alerte.
Vous écoutez RTL.
RTL, il est 19h. RTL Soir.
Le 19h, Julien Cellier, Marc-Olivier Fogiel.
Bonsoir Julien.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Et 60 personnes sont confinées ce soir dans les locaux de la DAS à Cergy-Pontoise. C'est une information RTL. Les secours ont été appelés pour une suspicion d'Ebola.
Après l'écotaxe, c'est sa version light qui est enterrée. Le gouvernement reporte s'inédier le péage poids lourd. Grosse colère des écolos. Hervé Gourdel y a été prisonnier. L'armée algérienne a découvert le campement où l'otage français a été retenu. Un témoignage digne, bouleversant. La maman de James Foley s'exprime ce soir sur RTL. Son fils James, journaliste américain, a été décapité par les djihadistes de l'État islamique. C'est un peu irréel, ému, surpris. Patrick Modiano a du mal à réaliser et pourtant, le romancier français a reçu le prix Nobel de littérature.
À la fin du journal, votre rendez-vous pendant le mondial de l'auto. Ma première voiture ce soir, Sidonie Bonnec vous amène à bord de sa BMW. Et puis évidemment, événement après 19h15, Duhamel Zemmour, le face-à-face de Vision de la France.
RTL.
RTL Soir.
C'est peut-être donc la première alerte Ebola en France. C'est une information RTL. Une soixantaine de personnes sont confinées dans les locaux de la DAS et de l'Agence régionale de santé à Cergy-Pontoise.
Et visiblement, c'est un médecin présent dans les locaux qui a donné l'alerte ce soir, Damien Delceni.
Oui, effectivement. Alors d'après nos informations, ce sont quatre personnes originaires de Guinée et arrivées récemment en France qui se sont trouvées dans les locaux de la DAS cet après-midi. Un médecin présent a donné l'alerte en constatant des symptômes troublants. Cela a entraîné effectivement le confinement d'une soixantaine de personnes. Les premiers secours sont arrivés sur place il y a plus d'une heure. Un périmètre de sécurité a été mis en place et une cellule de crise a été activée en préfecture. Des effectifs du SAMU équipés en conséquence sont maintenant attendus sur place d'un instant à l'autre. Il s'agit pour l'instant d'une suspicion d'Ebola.
Information RTL signée Damien Delceni.
Par ailleurs, l'aide-soignante touchée par Ebola est en danger de mort en Espagne. Elle reste hospitalisée à Madrid. Son état de santé s'est dégradé aujourd'hui. Cette femme a été contaminée au contact d'un malade qui revenait d'Afrique.
Le gouvernement a eu peur des routiers. Le péage poids lourd est enterré. Il est très officiellement reporté sine die.
Et pourtant, ce projet était censé remplacer l'écotaxe, elle-même abandonnée en juin dernier. La mesure devait rapporter 500 millions d'euros. C'est donc un nouveau recul. Ségolène Royal l'a annoncé ce matin, annonce après une réunion avec les syndicats de transporteurs des organisations qui menaçaient de manifester mi-octobre. Ce soir, la ministre de l'écologie indique que sa priorité reste le prélèvement du profit des autoroutes. Manuel Valls, lui, évoque une décision sage car le dispositif était devenu incompréhensible. Le coup de grâce est donc donné et les Verts n'apprécient pas du tout. Leur patronne Emmanuelle Cosse s'insurge.
Je suis très en colère parce que déjà il y a un an, l'écotaxe est passé de 15 000 km concernés à 4 300. On a réduit le périmètre, on a réduit l'assiette. Et aujourd'hui, on nous explique qu'il y a un report sine die, qu'il y aura des groupes de travail, mais je suis scandalisée. Moi, ce que je vois, c'est que nous continuerons à avoir des impacts très forts de la pollution de l'air, des routes qui seront entretenues par les citoyens et par les automobilistes, et des transporteurs routiers qui continueront à bloquer toute réforme de leur métier.
Emmanuel Cosse avec Maxence Lambrecq pour RTL. Et demain, 7h50, l'ex-ministre écolo Cécile Duflot sera l'invité de Jean-Michel Apathy sur notre antenne.
À l'inverse, les routiers, eux, sont soulagés. Ils ont gagné leur bataille face au gouvernement et ils lèvent leur préavis de grève. Aline Meples du syndicat ORTE.
Il s'agit d'une annonce qui vient à point nommé déjà et puis qui satisfait totalement notre organisation puisque c'est ce que nous attendions maintenant depuis des mois. Je pense que la taxe poids lourd est enterrée. Donc à la fois la FNTR qui devait se mettre sur les routes lundi et nous qui devions le faire vendredi, nous avons annoncé que nous renoncions à nos mouvements et que nous nous mettrions au travail dès la semaine prochaine sur ce sujet.
Aline Meples avec Eric Vanier pour RTL.
En tout cas, après cet enterrement, l'avenir des salariés d'Ecomove semble bien flou. Les 330 employés et douaniers de la société devaient collecter l'écotaxe ce soir. Leurs représentants se disent abasourdis et dégoûtés. Courage, si vous êtes sur le chemin de la maison ce soir en région parisienne, le trafic du RER B est très perturbé. Un train sur deux jusqu'à 21h, un train par heure ensuite. Les syndicats ont appelé à la grève. Ils dénoncent le mode de management de la RATP. Il y a 3 ans, Agnès Marin, 13 ans, était violée et tuée par un de ses camarades âgés de près de 18 ans. Son meurtrier est jugé en appel en ce moment. La réclusion à perpétuité est requise ce soir.
Heureux, fier et surtout surpris, Patrick Modiano a reçu cet après-midi le prix Nobel, de littérature.
C'est un peu irréel, a confié l'écrivain devant la presse. C'est la 15e fois qu'un romancier français remporte la prestigieuse distinction. Le comité récompense, je cite, son art de la mémoire. Il faut dire que l'auteur de Rue des boutiques obscures ou de Dora Burder a centré une grande partie de son œuvre sur la période de l'occupation. Franck Hanson, vous vous êtes rendu pour RTL ce soir au Furet du Nord. C'est une grande librairie à Lille et l'effet Nobel est déjà visible. Le dernier livre de Modiano, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, est clairement mis en valeur.
Oui, ce dernier ouvrage de l'écrivain est encore mieux mis en avant à l'entrée de la librairie lilloise, avec une précision sur cette nouvelle récompense. De quoi favoriser les ventes de tous ses romans, selon Franck Brunet, le chef de rayon littérature du Furet.
C'est vraiment un honneur pour la littérature française. C'est un peu l'affolement aujourd'hui. Nous venons de repasser commande immédiatement auprès de notre fournisseur tous les ouvrages, puisque nous devons de présenter presque l'œuvre complète de Modiano. Ça va mettre encore plus en avant son dernier roman, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. Un prix Nobel, c'est certainement encore plus fort qu'un prix Goncourt.
Et dans le rayon, même les plus anciens livres de Patrick Modiano, comme La place de l'étoile, Ronde de nuit, situé pendant l'occupation, pourraient retrouver un nouveau public. Certains lecteurs se plongent déjà dans ces pages.
C'est un bon écrivain, il a un beau style, très incisif.
Le fait qu'il ait eu le prix Nobel m'a incité à regarder, et c'est l'occasion de m'y mettre. C'est une ambiance un peu particulière, mais je suis aussi un enfant de l'après-guerre. L'occupation, la résistance, je pense aussi, ça me parle.
Dans la célèbre librairie de la Grand Place, le dernier prix prix Nobel de littérature attribué à Le Clésio en 2008 avait déjà eu un effet clairement positif.
Reportage de Frank Hanson à Lille pour RTL. Après la pub, direction l'Algérie, l'armée a découvert le campement où Hervé Gourdel a été retenu.
RTL Soir, Marc-Olivier Fauchiel.
Et pour la suite du journal à 19h07 ce soir, avec Julien Cellier, des obus, un téléphone, des petits murets en pierre. L'armée algérienne a découvert le campement où Hervé Gourdel a été retenu, Julien.
15 jours après la décapitation de l'otage français, un millier de soldats sont toujours déployés en Kabylie. Ils quadrillent la zone montagneuse où le guide a été enlevé. Amina Boumaza, vous êtes la correspondante de RTL en Algérie. Ces unités sont donc tombées sur un bivouac déserté par les terroristes, bivouac qui se situe à 1 km à peine du lieu du rapt.
Oui, l'armée algérienne révèle aujourd'hui qu'elle a localisé le lieu de l'enlèvement d'Hervé Gourdel ainsi que le campement où se cachaient les terroristes. Elle dévoile même les images de ce bivouac où a été tournée la première vidéo de revendication des soldats du califat. Sur les photos, on découvre un groupe très équipé et organisé, utilisant des jumelles, de nombreux téléphones et appareils technologiques, mais aussi tout un arsenal composé de grenades, roquettes et explosifs. Le ministère de la Défense affirme avoir détruit ce campement et a récupérer tous les équipements qui ont servi au groupe armé. Il s'agit donc d'une avancée majeure dans l'enquête menée par l'Algérie. Enquête qui d'ailleurs se poursuit. L'armée continue de chercher dans le massif du Djourdjoura le corps d'Hervé Gourdel et surtout ses assassins.
Amina Boumaza en Algérie pour RTL. Et ce soir, une voix s'élève face aux atrocités de l'État islamique, celle de Diane Follet. Son fils, James, a été exécuté par les terroristes.
Les djihadistes avaient revendiqué la décapitation de ce journaliste américain mi-août. Ce soir, ses parents sont invités à Bayeux, en Normandie, à l'occasion du 21e prix des correspondants de guerre. Marie-Baptiste Duard a rencontré pour RTL la maman de James Follet. Elle dénonce la barbarie des terroristes, un témoignage bouleversant de dignité.
Their hatred is very frightening.
Leur haine est terrifiante. Je pense que la communauté internationale doit s'en rendre compte et travailler ensemble pour combattre des gens aussi haineux. Ils n'ont pas d'humanité, pas de cœur. Ils ne représentent certainement pas l'islam ou n'importe quelle autre religion.
Madame Follet, en voulez-vous à Barack Obama de ne pas avoir pu sauver votre fils ?
Je pense que nous avons beaucoup à apprendre de nos alliés, comme les Français. Votre gouvernement a été bon avec nous. Beaucoup de journalistes l'ont été également. L'héritage que Jim nous laisse va permettre à des pays comme le nôtre de comprendre qu'il faut se mobiliser davantage pour ces journalistes et pour ces travailleurs humanitaires si courageux. J'espère que l'on pourra travailler davantage avec notre gouvernement désormais pour qu'il revienne sur son refus de négocier avec les terroristes. Ce sujet doit être débattu.
La maman de James Follet, donc au micro RTL de Marie-Baptiste Duard. 29 ans et déjà retraité, Andy Schleck, talent gâché, range son vélo au garage.
Le vainqueur du Tour de France 2010 dit stop. L'élégant luxembourgeois n'aura donc pas réussi à obtenir un palmarès à la hauteur de son potentiel. Victime de blessures à répétition, notamment d'une rupture des ligaments croisés cette année, il a multiplié les rendez-vous manqués. Aujourd'hui, le champion a donc mis un point final à sa carrière et Ludovic van de Kerckhove l'a joint pour RTL.
Oui, bien sûr, c'est très difficile. C'est pas vraiment moi qui a décidé, c'est mon genou qui a pris la décision pour moi. Les docteurs, ils m'ont dit que pour rouler sur un niveau professionnel, je vais aller plus bien. Je suis fier de ma carrière. Je suis fier des 10 ans que j'ai fait. J'ai fait beaucoup de très belles résultats. Et puis maintenant, bon, c'est une nouvelle vie qui commence. Je veux faire quelque chose avec le vélo.
Andy Schleck, donc, au micro RTL de Ludovic van de Kerckhove. Louis Baudin, pour demain, de la pluie, notamment dans le Languedoc.
Voilà, déjà, ça va commencer cette nuit. Et du coup, vigilance, effectivement, dans l'Hérault, le Gard, l'Ardèche ou encore la Drôme, en raison de ces pluies et du risque d'inondation. Les sols sont encore saturés. Ça n'a pas eu le temps de s'évacuer. Résultat, donc, cette vigilance commence cette nuit. Elle va être prolongée probablement demain, où on attend encore beaucoup de pluie dans le Languedoc. De la pluie, plus généralement, des Pyrénées aux frontières de l'Est. En tout cas, aux frontières du Nord-Est, pour être plus précis. Au nord d'une ligne Bordeaux-Metz, à peu près là, ça sera quand même plus calme, plus sec. Après dissipation des brouillards, on verra le soleil assez souvent. De rares averses, peut-être près de la Manche. Et puis également beaucoup de soleil entre les Alpes du Sud et la Corse. Tout cela avec une certaine douceur. Des températures de 17 à 21 degrés au nord comme au sud l'après-midi. Et encore 24 à 27 degrés près de la Méditerranée.
Merci Louis.
RTL, la radio officielle du Mondial de l'Automobile.
Et pendant le Mondial de l'Auto, après le journal de 19h, votre nouveau rendez-vous, ma première voiture ce soir, la BM. Oui, la BM de Sidonie Bonnec.
Ma première voiture, Christophe Bourou.
Cette année-là, les autoradios jouaient ce tube d'Oasis. Wonderwall
Bristol en 1995. Allez, on monte à bord de la première voiture conduite par Sidonie Bonnec.
Ma première voiture, c'est en fait la voiture de mes parents. Donc ils m'ont prêté leur belle et grande voiture. Et j'ai eu la mauvaise idée de ne pas la ramener entière. Disons que j'y étais presque. Hein. J'ai garé la voiture, pas dans le garage de mes parents, mais dans la maison.
Dans la maison.
Oui, donc mon père a dû venir pour décrocher le pare-choc qui s'était enfoncé dans le bas de la maison. C'est assez mythique, mes parents s'en souviennent encore. Du coup, pour le prêt de la seconde voiture, ça a été quand même très compliqué. Ils l'ont quand même fait, j'ai arraché la porte arrière. Donc là, ils ont arrêté de me la prêter. Et depuis, eh bien, j'avoue que je prends les transports en commun.
Est-ce que la marque, la couleur, est-ce que vous avez un souvenir ?
Je m'en souviens très bien. La première, c'était une belle BMW mordorée. Ou ocre, mais elle était très jolie et ça faisait des années qu'ils l'avaient. Hein. Ils étaient vraiment heureux. Je les massacrais vraiment en peu de temps. Et la deuxième, je ne sais plus. Elle était blanche. On l'a gardée de moi à cause de moi. Quelques années après, je suis allée conduire une voiture à Barcelone avec Dominique Chapat pour Turbo. Mon père m'a dit mais t'es folle, n'y va pas. Mais tu es la honte de la famille. Tu vas emboutir la voiture. J'ai réussi à la conduire parce que j'avais confiance. Et en fait, j'adore les voitures et j'adore conduire. Donc je pense que un de ces jours, je vais franchir le pas et je vais m'en acheter une.
Et vous retrouvez Sidonie avec Thomas Hugues tout à l'heure à 20h. Allez, à suivre, on va éviter l'image des gants de boxe, ça a déjà été fait et ce n'était pas très réussi. La confrontation Zemmour-Duhamel, ils ne sont d'accord sur rien, peut-être serez-vous d'accord avec eux.